Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous. Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, donc la défaite de l'AKP à Istanbul.
Oui, et donc la victoire du candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, au municipal. 3 mois après un premier scrutin annulé, le nouveau revers pour les islamo-conservateurs de l'AKP, qui perd donc la capitale après 25 ans de domination et qui vacille peut-être au niveau national. Eh bien, on voit ça avec vous, Dorothée Schmidt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes bien sûr la responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Alors, le vote précédent, celui du 31 mars, avec 13 000 voix d'écart, avait été invalidé sur demande de l'AKP. Mais aujourd'hui, avec 54% des voix pour Ekrem İmamoğlu contre 45% pour Bin Ali Yildirim, les Stambouliotes confirment leur préférence pour l'ancien maire de quartier face au cadre de l'AKP. Et même Dorothée Schmidt, 800 000 voix d'écart, c'est quand même une progression très importante par rapport au dernier scrutin. Comment vous l'expliquez ?
Oui, alors évidemment, c'est extrêmement impressionnant puisque une des raisons pour lesquelles l'AKP avait contesté le précédent scrutin, c'est précisément que l'écart de voix était très faible et que donc on pouvait considérer que les irrégularités du scrutin, les irrégularités techniques permettaient de demander un nouveau comptage. Là, ce qui est très clair, c'est que les électeurs stambouliotes ont sanctionné Erdogan et évidemment son candidat, mais c'est bien le président qui est visé au travers de ce nouveau résultat. Ils l'ont sanctionné notamment d'avoir précisément demandé un nouveau scrutin. C'est-à-dire que c'est l'enjeu démocratique aujourd'hui qui a fait la différence certainement à Istanbul.
Alors on va reparler des raisons de cette progression. Peut-être juste sur la réaction à la fois du président Erdogan et de Bin Ali Yildirim. Les deux ont félicité Ekrem İmamoğlu. Est-ce que ça veut dire que l'AKP en quelque sorte fait profil bas puisque c'était aussi un test pour lui de son respect de la démocratie?
Alors disons que les sondages de toute façon donnaient une très forte avance au candidat de l'opposition depuis le début. Donc il était probable que l'AKP avait quand même anticipé cette défaite et considéré qu'İmamoğlu allait gagner. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la déclaration du nouveau maire qui a précisé qu'il considérait que sa victoire était un nouveau début pour la Turquie. Donc, c'est quand même une ambition qui est bien au-delà d'Istanbul. Bon, sachant qu'Istanbul, c'est déjà une ville énorme. On sait que c'est la moitié du PNB turc. Il y avait un électorat de 10 millions d'habitants qui était appelé à se prononcer. Donc, c'est une victoire qui est extrêmement importante, pas simplement du point de vue symbolique, mais du point de vue quantitatif. Et surtout, aujourd'hui, on a une nouvelle figure politique qui pourrait s'opposer à Erdogan à l'avenir dans d'autres contextes,
oui,
dans d'autres élections.
De la même manière, il a dit, İmamoğlu, hier, Monsieur le Président Erdogan, je suis prêt à travailler en harmonie avec vous. Ça va dans le sens de ce que vous dites, effectivement, qui se pose en rival pour 2023. Simplement, sur Istanbul, encore une fois, comment est-ce que vous l'interpréteriez? Donc, c'est quand même immense ville, 16 millions d'habitants, 11 millions d'électeurs, 20% du PIB, dans laquelle İmamoğlu avait été un maire de quartier plutôt très apprécié. Est-ce que c'est plutôt la confirmation du choix national du 31 mars, 45% au niveau national pour l'AKP et la perte des grandes villes, ou l'injustice qui a été faite à İmamoğlu lors du scrutin et qui semble avoir quand même mobilisé les électeurs?
C'est évidemment ces deux choses à la fois. Et puis, c'est cette politique d'alliance assez astucieuse qu'a eu İmamoğlu, puisqu'il est à la fois allié au bon parti, qui est ce nouveau parti qui a fait défection par rapport aux nationalistes qui sont les élus d'Erdogan. Et puis, il a eu le soutien des Kurdes, du HDP, de ce parti de gauche, même si au dernier moment, Abdullah Öcalan, qui est le chef historique de la contestation kurde, a appelé depuis sa prison à s'abstenir. Et en réalité, les électeurs kurdes, qui sont très nombreux à Istanbul, sont vraisemblablement allés voter également pour İmamoğlu. Donc, on a quand même un vote qui est un vrai vote composite, qui démontre que beaucoup de parties différentes de la société turque souhaitaient cette alternance. Il est probable qu'il y ait une partie de l'électorat de l'AKP aussi qui s'est détournée en réalité du vote de Bin Ali Yildirim.
Alors c'est intéressant que vous parliez de l'appel de Çalan, effectivement, qui demandait aux Kurdes de rester neutres. Hein, le 21, il a fait cet appel-là, parce que ça nous permet de rentrer dans la campagne où on voyait par exemple que İmamoğlu, lui, allait voir par exemple les Bosniaques d'Istanbul, qui lançait son fameux slogan tout aura une bonne fin ou tout finira bien dans leur propre langue, qui disait que son premier voyage serait dans les Balkans. Et à contrario, on avait un peu l'impression que l'AKP était à court d'arguments, même s'il y a eu un débat entre Yildirim et İmamoğlu. Et puis surtout, c'était les paroles de Erdogan en disant maintenant le choix, ça va être entre Sisi, c'est-à-dire İmamoğlu, ou bien Yildirim. C'était un peu excessif.
Alors, ce que vous décrivez dans la campagne, ça montre que İmamoğlu a appris de l'AKP. C'est-à-dire qu'il est allé chercher des votes communautaires. Le fait de parler dans leur langue aux minorités, ça, c'est quelque chose que Erdogan pratique depuis 15 ans. Et inversement, l'AKP, effectivement, était un peu à bout d'innovation, je dirais, dans cette campagne. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on sait quand même que les votations, c'est ce qui fait le succès de l'AKP et l'argumentaire démocratique d'Erdogan repose entièrement sur l'idée qu'il est capable de gagner toutes les élections, les référendums, etc. Et là, aujourd'hui, il trouve quelqu'un qui, du point de vue de la technique électorale, a réussi à le dépasser parce que son grand avantage, c'est qu'il s'est présenté comme consensuel et qu'il a évité la confrontation avec Erdogan. Ça, c'est très important. On avait d'un côté l'AKP qui apparaissait comme finalement un parti un peu en bout de course, avec un Erdogan qui apparaît toujours comme étant le candidat, même si c'est pas lui le candidat, et qui continue d'être extrêmement vindicatif et qui effectivement a accusé İmamoğlu d'être à la fois un suppôt de Fethullah Gulen, un terroriste, un partisan des Kurdes, etc.
Oui, donc il y a cet aspect campagne, comme vous dites, qui est peut-être symptomatique. Et puis concernant la gestion d'Istanbul, est-ce que, d'une certaine manière, Bildirim ne la paye pas aussi, cette gestion de l'AKP, qui a été beaucoup, beaucoup dénoncée par İmamoğlu lors de sa campagne, en disant finalement, Istanbul, en gros, c'est la ville de la corruption, eu égard à la question de l'attribution des marchés publics, ce qu'on appelle le monopole des 31. Là.
Alors ça, c'est vrai que pour les opposants et les analystes qui attendaient une alternance, on a beaucoup parlé de la corruption. On a dit que d'ailleurs, le fait de convoquer un nouveau scrutin, c'était peut-être pour l'AKP tout simplement un moyen de se donner le temps de nettoyer les comptes et de faire disparaître toutes sortes de preuves de corruption des dossiers à Istanbul. En tout cas, n'oubliez pas qu'Istanbul, c'est la ville d'où est partie la contestation de Gezi en 2013. Donc c'est quand même une ville qui a déjà montré dans le passé qu'elle avait envie de d'autres choses du point de vue de la gestion municipale, y compris sur ces questions de corruption immobilière, d'attribution de marchés publics. Et puis İmamoğlu a été le maire d'un petit district d'Istanbul, donc on dit beaucoup qu'il a contribué à le changer en bien, qu'il en a fait une espèce de modèle, de vitrine de ce que pourrait être une ville de l'avenir qui est plus écologiste, plus soucieuse des citoyens, de leur bien-être au quotidien, etc.
Oui, avec entre autres 600 000 mètres carrés d'espace vert créé pendant son mandat. Alors maintenant, au niveau national, à quel point est-ce que ça vous semble transposable, même si là, on arrive dans 4 ans, en 2023, ce score, et notamment cette fameuse alliance dont vous parliez, ADP, CHP, et puis le Bon Parti, qui est un parti nationaliste, on peut le dire comme ça. Ouais.
Bon, l'important du point de vue de l'équilibre du paysage politique en Turquie, c'est qu'on a une opposition qui a réussi à relever la tête et à s'organiser pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Alors, est-ce que cette alliance va tenir? J'en sais rien, mais ce qu'il faut voir, c'est que İmamoğlu, c'est une nouvelle figure au sein du CHP, donc ce parti kémaliste traditionnel, qui pourrait peut-être montrer la voie, enfin, la réforme de ce parti que tout le monde attend depuis très longtemps. On ne suis pas trop sûr que le EYİ Parti aura un avenir. Le HDP, donc ce parti pro-kurde, il est mis dans un état absolument lamentable par toutes les persécutions que subissent ses membres de la part de l'AKP au niveau national. Donc finalement aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le CHP va enfin se réformer et devenir un parti qui pourrait tenir la route face à l'AKP, alors que l'AKP lui-même aujourd'hui connaît des dissensions en interne, qu'Erdogan est très contesté et que lorsqu'il a décidé de rejouer cette élection à Istanbul, des voix de personnalités très fortes au sein de l'AKP, je pense évidemment à Abdullah Gül ou Ahmet Davutoğlu, donc ancien Premier ministre et ancien Président de la République, ont beaucoup critiqué cette décision.
Oui, donc il y aura beaucoup, disons, d'enjeux intérieurs. Est-ce que, disons, alors le plan international, ça peut aider le président Erdogan à se représidentialiser et à représidentialiser l'AKP pour les prochaines élections, sachant que là, il y a des difficultés quand même assez importantes, ne serait-ce que sur İdlib en ce moment pour la Turquie?
Oui, alors à mon avis, ça c'est plutôt quelque chose qui risque de compliquer beaucoup la vie à Erdogan. C'est qu'effectivement, İmamoğlu va pouvoir se concentrer sur Istanbul et sur la gestion d'Istanbul et qu'il n'aura pas à glaner la crise syrienne, la relation qui est tout à fait détestable avec les États-Unis aujourd'hui, avec ce fameux choix d'équiper l'armée turque de missiles russes. Donc toute une série de dossiers qui finalement plombent totalement la perspective pour Tayyip Erdogan au niveau national.
Oui, c'est ça, avec l'ultimatum au 1er juillet pour ces fameux S-400. Bah, écoutez, on en reparlera, mais merci beaucoup pour toutes ces explications aujourd'hui, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Merci, bonne journée.